principal de notre charité et notre amour. Et donc nous sommes, vous savez, cette expression magnifique dans l'écriture, Deutéronome, l'aigle qui apprend à ses petits à voler. J'ai oublié de dire tout à l'heure, en théologie biblique, c'est tellement beau. L'aigle qui apprend à ses petits à voler. Il les prend sous son pénage. Il les abrite. Alors c'est l'aigle père ou mère qui agit le premier. Et l'autre suit. Quand on est en tandem, il y en a un qui commence et l'autre suit immédiatement après. Sans retard, sans freiner. Pour que on coopère. C'est ça la coopération. Oui. On va dire, c'est toi le premier. Hein. Il part derrière. On ne dit rien, mais on freine. Ou on ne fait rien. Parce que tu es lourd. Qu'est-ce qu'une vertu infuse? Oui, ça évidemment, je n'ai pas tout expliqué. Vous avez raison de poser ces questions. Une raison infuse, une vertu infuse, c'est une vertu qui est directement donnée par Dieu. Qui n'est pas acquise, tout simplement. Elle est infuse, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur principal et propre, l'Esprit Saint. Est-ce simplement que l'exercice de la charité infuse nous donne d'agir vertueusement? Non, c'est le don même de la charité. La charité n'est pas acquise par des actes antérieurs d'amour. La charité est acquise directement par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui me la donne. Ce n'est pas moi. Je ne peux pas par moi-même acquérir la charité. Et que petit à petit, nous acquérons ainsi ces vertus. Non, on les acquiert directement. Pourquoi n'est-il pas de don pour l'exercice de l'imagination? Demandez au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'imagination ne nous donne aucune finalité. L'imagination, c'est la folle du logis. C'est-à-dire que c'est celle qui va dans tous les sens et qui regarde avant tout les moyens et jamais la finalité. On ne touche pas la finalité par l'imagination. L'imagination est autour des moyens et qui fait quelquefois gonfler les moyens de telle manière qu'on croit qu'ils sont la fin. Alors on est dans l'erreur. C'est intéressant, tu vas supposer, parce que l'imagination n'est pas surnaturalisable. Vous ne pouvez pas dire « j'ai une imagination surnaturelle ce matin ». Non, ce n'est pas surnaturalisable. Ce que n'est surnaturalisable que ce qui atteint une certaine finalité et un certain bien, immédiatement.
Mais dans les phases classiques prophétiques, il y a une action, parfois
de Saint-Esprit, par l'imaginaire. Oui, il y a une action indirecte, pas directe. Oui, c'est par la foi. Alors dans la mesure où la foi, dans son exercice, réclame l'intelligence, et que l'intelligence réclame l'image, l'esprit, l'image peut être, voyez, surélevée dans sa représentation. Mais elle n'est pas surnaturelle. C'est la signification qui est surnaturelle. Vous dites que la grâce agit au niveau de la vie surnaturelle, oui. Qu'elle nous donne une nouvelle nature. Mais la nature n'est-elle pas au niveau de l'être? Oui, oui. On ne peut pas employer nature au sens de la nature vivante. Là, c'est au niveau de l'opération vitale. Et on dit nature parce que c'est un principe. n'y a rien avant. C'est pour ça qu'on dit nature. Et c'est pour ça qu'on corrige habitus par nature. Vous voyez ? Parce que nature, c'est un principe. Principe d'opération. Principe de devenir. La nature. Fusis. Oui.
Pourquoi la sagesse s'enracine dans la volonté ?
La sagesse s'enracine dans la volonté parce qu'elle émane directement de la charité. L'exercice divin de la charité réclame le don de sagesse. C'est par la charité que vous voyez l'enracinement. Vous voyez, c'est pas direct. Et la charité réclame l'intelligence. Vous voyez ? Toujours, il y a toujours connaissance dans la charité, comme dans l'amour d'amitié. Il y a toujours une certaine connaissance. Donc cette connaissance peut être surnaturalisée à l'intérieur de l'amour, pour que la connaissance soit au niveau même de l'amour, et ne soit pas un frein. Vous allez tout de suite comprendre, vous voyez. Dans l'amour d'amitié, il peut se faire que l'intelligence que vous avez de votre ami va paralyser votre élan premier. Vous avez découvert qu'il n'était pas aussi intelligent que vous le croyez. Au début, quand il découvre, vous voyez, les fiançailles, parce qu'il est intelligent. C'est le plus intelligent de tous les hommes que j'ai rencontrés. Parce qu'on l'aime, alors on met des fleurs. Et la première fleur, c'est l'intelligence qui pousse dans ce petit paradis de l'amour d'amitié. Puis vous apercevez assez vite, oh non, vous avez intelligence moyenne. C'est pas bête, c'est sûr, mais intelligence moyenne, quoi, c'est pas extraordinaire. Alors à ce moment-là, l'intelligence que vous avez de lui risque de freiner votre élan. Oui. Au début, l'amour, imaginez. Alors, pour que jamais notre foi ne diminue, il faut le don de sagesse reçu dans la volonté, par la charité, pour donner cet exercice divin. Par rapport à la contemplation et par rapport à nos frères dans la charité divine, puisque nous les aimons dans la lumière du Christ et nous contemplons dans la lumière du Christ grâce au don de sagesse. Vous voyez, toute contemplation implique un regard. Saint Thomas dit que la sagesse habitus contemplativus. C'est très beau. La sagesse, un habitus contemplativus. Et comme la contemplation se fait à l'intérieur de l'amour, c'est dans l'amour qu'il y a ce regard. Oui. Puisque l'intelligence est présente à l'intérieur de l'amour. Il y a ce flash divin, oui, qui permet d'atteindre l'autre dans la lumière même du Christ. Ce qui me permet de contempler. Je crois avoir répondu à toutes les questions là. Parce qu'il y en a beaucoup qui se suivent. Donc, la croissance, on coopère activement par toutes nos actions. Mais quand je demande, par exemple, au Saint-Esprit d'augmenter ma foi, je coopère à la croissance de la foi. Je coopère à la croissance de la foi. On demande. Et on demande au Saint-Esprit exercer sur nous constamment le don de sagesse pour entrer dans la contemplation. Oui. Je coopère donc à l'action même des dons du Saint-Esprit, en demandant au Saint-Esprit d'être davantage docile à son action. Et ça, c'est déjà une coopération active, pas purement négative. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Il y en a des quantités qui viendront après. Mais, oui.
Pour recevoir la grâce, est-ce que Dieu ne demande pas une disposition prête pour
vous? Est-ce que vous méritez la grâce? Alors une petite disposition qui serait surnaturelle ou naturelle? Oui, je crois qu'on demande à Dieu. Oui, pour celui qui, par exemple, déjà demandé à Dieu la grâce, c'est d'avoir la grâce. Celui qui se prépare au baptême, un adulte, il a la foi. Donc il a la grâce. Dès qu'un adulte a la foi, il a la grâce. Il est justifié. Et il demande le baptême pour que la grâce soit surabondante. Vous voyez ? Ça, c'est déjà une question de demain, la question des sacrements. Alors, reste une question grave, le péché. Le péché, normalement, est un acte personnel et volontaire. Le péché, nous le voyons en théologie biblique, c'est sûr. La première faute d'Ève. La seconde faute, Adam, la troisième faute de Cain. Après, les fautes se généralisent, l'iniquité généralisée. Et un orgueil collectif, la tour de Babel. Bon, tout de suite, on voit dans l'Écriture le péché. Comme un refus d'obéissance à Dieu. Dieu défend de prendre du fruit de tel arbre et sous l'emprise du démon, Ève se laisse prendre. Elle coopère au démon. Elle ne coopère plus à l'Esprit Saint. Et tout de suite, le péché est présenté comme une coopération à la tentation du démon. Ce qui est très important, parce que je crois qu'à travers toute l'Écriture, on montre que le péché implique toujours une coopération avec un esprit mauvais. Et tout de suite, on voit que le péché, Dieu veut le réparer. Tout de suite. Et le péché de l'homme est réparable. On verra ensuite, dans l'Apocalypse, la faute de l'ange. La première faute de l'ange, antérieure à celle d'Adam, à celle d'Ève. Et Dieu ne promet pas de sauveur aux anges déchus. À travers toute l'Écriture, je vois que cette promesse de Dieu continue. Et donc, on voit comment Dieu veut tout de suite se servir des conséquences du péché pour communiquer une plus grande miséricorde. La miséricorde du pardon. Et par le fait même, attirer vers lui, d'une manière plus intime, le pécheur. Je ne dis pas qu'il est dit que le péché fait partie de la pédagogie divine. Oui, parce que Pierre a dit « pêche beaucoup » pour que tu puisses recevoir en surabondance la miséricorde, la grâce. Oui, ce serait détourner ce qui est dit dans l'Écriture. Dieu ne nous a jamais encouragés de pécher. Dieu, au contraire, se met en colère pour bien montrer qu'il désapprouve. Parce que c'est un anthropomorphisme. Dieu ne se met pas en colère. Pour que nous comprenions que Dieu désapprouve le péché, il nous a montré cette colère de Dieu. Et la colère de Dieu pour que l'homme comprenne la gravité du péché. Donc, à travers toute l'Écriture, le péché nous est montré comme réalisant un désordre. Alors, je crois que si on regarde attentivement en théologie biblique, le thème, le péché, c'est un très grand thème. Et tous nous pouvons l'étudier, ça. Très grand thème. On verrait que le péché est vu sous des aspects divers. Désobéissance à Dieu immédiatement. Rupture de la charité fraternelle par la jalousie. L'iniquité généralisée, on se laisse entraîner par le milieu dans lequel on est. Et on perd le sens de la justice et du respect de l'autre. Et on est dégradé de façon telle que Dieu a un dégoût d'avoir créé l'homme. Le péché provoque en nous une telle désagrégation que Dieu en est dégoûté. Alors que Dieu aime tellement son image. Et ceci, c'est marqué, hein, le déluge, avant le déluge. La réhabilitation de l'homme après le déluge. L'homme est réhabilité. Mais il garde encore la capacité de pécher, la tour de Babel. Et là encore, c'est un péché dont on est entraîné par les autres. À travers toute l'Écriture, voyez le péché en opposition vis-à-vis de l'amour de Dieu. Désobéissance, se laisser aller. Et ne pas s'obliger de se remettre dans l'amour de Dieu. Et vous avez le péché tel qu'il nous est montré en Saint Jean, théologie biblique, c'est peut-être là où le péché est montré dans une lumière divine la plus forte. Votre père, c'est le diable. Par le péché, le démon s'introduit dans notre vie. Et nous venons de la génération du démon. Jésus dit, votre père est diable. Par le péché, on devient esclave. De nos concupiscences, esclave du démon. Donc là, quelque chose qui est, je crois, propre à Saint Jean. Vous le voyez autre part, vous me le direz. C'est bon de regarder le point de départ. La Genèse nous montre les grandes fautes. Et Saint Jean nous montre de la manière la plus profonde ce qu'est le péché. Refuser d'aimer. S'enfermer dans son propre. Sa propre gloire, dans sa propre sincérité, s'enferme sur soi. On est coupé, on se coupe de Dieu. En théologie de l'Église, le péché va se présenter de manière plus profonde le refus de croire. De croire à Jésus comme Rédempteur. Le refus de croire à la divinité du Christ. On est des antichrists. C'est encore quelque chose de nouveau. Par le péché contre Jésus. Et il y a le péché contre le Saint-Esprit, qui est irrémédiable. C'est déjà dans la théologie. Vous voyez, déjà, je dirais, dans la théologie biblique, il faut le montrer, ça. Le péché contre l'Esprit Saint, péché irrémédiable. Et parallèlement au péché, est toujours montré la miséricorde du Christ. Toujours. Les deux. On montre que le péché est une rupture à l'égard de Dieu. Une rupture qui conduit à la mort. Et que le péché, cependant, est toujours pardonnable. Et que c'est le geste de miséricorde le plus grand. En théologie mystique, le péché, c'est le refus de l'amour. On ne veut plus aimer, on n'aime plus. Donc là encore, vous voyez, toutes ces parties de la théologie nous donnent une lumière spéciale sur le péché. En théologie scientifique, Saint Thomas, Saint Thomas va montrer que le péché est dans un acte. Matériellement, le péché est quelque chose de positif. Et formellement, le péché est quelque chose de négatif. C'est l'aversion à l'égard de la volonté de Dieu. Le détournement volontaire à l'égard de la volonté du Père. On refuse d'obéir. Donc une aversion. On se coupe. Tout péché va par le fait même s'engager dans une autre voie. C'est une rupture de voie, le péché. Rupture à l'égard de Jésus. Saint Thomas va tout de suite préciser la diversité des péchés en précisant quel est le premier péché. C'est le péché de l'ange. Et saint Thomas s'appuie sur toute la tradition, surtout celle de saint Augustin. Je crois que saint Augustin, c'est le père de l'Église qui a le plus parlé du péché. Comme de la grâce. Ça va de soi. Donc, le premier péché, c'est le péché de l'ange. Lucifer. Symbolisé par serpent, le dragon et l'adversaire. Ceci, c'est dans l'Apocalypse. Donc, on pourrait le dire en théologie biblique. Saint Thomas ne reprend pas ça. Donc c'est en théologie biblique. Parce que vous voyez, ça montre que le péché est anti-trinitaire. Le premier péché fait une rupture à l'égard de la communion avec Dieu et le Dieu trinitaire. Et c'est pour ça que tout de suite, il y aura une triple opposition. Trois fois anti. Le péché trois fois anti, tel qu'il nous est présenté dans l'Apocalypse. Anti-père, le dragon. Anti-verbe, le serpent. Anti-Esprit Saint, l'adversaire. Puisque l'Esprit Saint est le consolateur et l'ami. C'est très très important ça, je crois. Parce que c'est... On l'a perdu, cette notion-là. Et pourtant, c'est dans l'Écriture. Donc, c'est théologie publique. Dans la théologie publique, le péché se termine en montrant le péché de l'ange. Qui est le premier péché. L'ange pêche seul. Et c'est pour cela... Alors là, c'est saint Thomas. Et c'est pour cela que, de fait, il n'y a pas de place à la miséricorde. Parce que son premier péché est un péché d'orgueil. C'est très important, ça, de voir que le premier péché, c'est l'orgueil. Le premier péché est le dernier péché d'un péché d'orgueil. Le péché d'orgueil personnel. Et péché d'orgueil collectif. Si on regarde attentivement, point de vue de l'économie divine, donc théologie biblique, saint Thomas reprend. Péché d'orgueil dans lequel le démon est totalement engagé dans une lucidité froide. Il y a un choix libre. Et c'est parce que le démon est totalement engagé comme une intelligence intuitive et non pas délibérative. On ne peut pas pardonner au démon. Parce que pour pardonner, il faut qu'on ait le regret. Autrement, le pardon ne peut pas pénétrer. Le pardon est un acte de miséricorde. Et le pardon implique une coopération de celui qui pardonne et de celui qui pardonne. Or, comme le démon est totalement engagé dans sa faute, il est totalement responsable, mais il est heureux d'être responsable. Il est d'une sincérité parfaite dans son orgueil. Et il est sûr d'avoir raison. C'est ça sa sincérité. Sincérité angélique. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de place au regret. Et s'il n'y a pas de place au regret, il n'y a pas de place à la miséricorde. Et donc, le péché du démon ne peut pas être pardonné. Je dis ça, c'est parce que certains théologiens, aujourd'hui, voudraient bien retrouver le démon. Ils ont une petite amitié particulière. Oui, forcément, dans l'orgueil. Ça peut être autrement. Sauvons cet orgueilleux, quoi. Après tout, c'est pas si mal d'être orgueilleux. C'est tout simplement reconnaître qu'on est intelligent. Qu'on est même suprêmement intelligent. Alors, c'est élégant l'orgueil. Ça fait très bien dans les salons. L'orgueil est un péché qui est... Je ne dis pas qu'il est sympathique, parce qu'il n'est pas sympathique du tout. Mais c'est séduisant. L'orgueil peut être très séduisant. Parce que c'est intelligent. C'est bête, fondamentalement, Et finalement, mais c'est intelligent en soi, formellement. C'est toujours intelligent. Alors, le démon pêche, il reste, lui, le lieu de la perdition et le lieu de la condamnation. L'enfer, c'est le démon. Et l'enfer, c'est d'être lié au démon. Lié volontairement au démon. Et ne plus vouloir le quitter. C'est ça l'enfer. L'homme, ou plus exactement, le premier péché, Ève et Adam. Donc c'est le péché de l'homme. Péché pénètre dans la race humaine, dans l'homme. Péché pénètre dans l'homme. Et on aura à partir de là ce qu'on va appeler le péché originel. Comme descendant d'Adam. Un péché tout à fait particulier, puisqu'on dira péché de nature, comme dira saint Thomas, ce n'est plus un péché personnel. C'est un péché qui provient de ma dépendance à l'égard d'Adam. C'est révélé. Il s'agit d'essayer de le comprendre. Pour saisir ce qu'est le péché originel, il faut comprendre la place voulue par Dieu, par Adam. La place voulue qu'Adam ait, qu'il soit le prince de l'humanité, princeps, le premier, et donc responsable de toute l'humanité en face de Dieu. D'une responsabilité de père, paternel. Chacun des descendants d'Adam aura sa liberté, mais il sera marqué par le péché du Père. Parce que ce Père a reçu une grâce de Dieu, une grâce paternelle, qui fait que tous ceux qui viendront de lui et qui descendront de lui lui seront liés moralement. Oui, c'est un premier corps mystique dans la grâce et dans l'humanité. La grâce aurait été communiquée avec la communication de la nature, une grâce de justice originelle. Une grâce qui permet une harmonie parfaite entre les exigences de la grâce et les exigences de notre pauvre nature humaine. Une harmonie parfaite entre les deux. Puisque Adam a coupé la relation avec Dieu, il l'a rejeté. On peut dire que, à partir d'Adam, l'humanité va être communiquée à ses descendants comme une humanité coupable envers Dieu, ayant donc une faute de nature. Concile de Trente qui le dit explicitement, qui reprend pratiquement toute la grande théorie de saint Thomas. Et Paul VI, sitôt le concile, ou pendant le concile plus exactement, a déclaré aux théologiens qui qui voulait faire un petit colloque sur le péché originel, Paul VI a déclaré « Il est bien évident que la doctrine du Concile de Trente demeure. Mais chercher pour interpréter ce que représente cette faute d'une façon plus proche de la mentalité des hommes d'aujourd'hui. Donc, du personnalisme. Vous voyez les difficultés. La transmission du péché originel se fonde sur la nature. Le péché personnel, c'est la personne. Or, aujourd'hui, on ne veut plus qu'une morale personnaliste. On veut supprimer de la morale de saint Thomas tout ce qui repose sur la nature. Alors, par le fait même, vous êtes coincé pour le péché originel. C'est une des grandes questions d'aujourd'hui. Vous serez tous interrogés sur le péché originel. Tous. J'en suis sûr. Donc, il s'agit de comprendre ce qu'il est, ce que l'Église dit. Puis après, ce que les théologiens peuvent dire. C'est pour ça que le péché originel réclame une théologie scientifique. Je crois qu'on ne peut pas donner d'explication en dehors d'une théologie scientifique. C'est une théologie qui va le plus loin possible dans les liens avec Dieu et dans les liens qui peuvent exister avec nos premiers pères. Des liens qui ne sont pas des liens, vous voyez, ordinaires. Nous n'avons pas connu notre grand-père. C'est un regard métaphysique, philosophique, sur la tête et les membres. C'est l'exemple pour saint Thomas. Quand ma main tue, je suis responsable. C'est pas moi. Pas mon cerveau qui est tué, c'est ma main. Et parce que c'est ma main qui dépend de moi, c'est une co-responsabilité. Adam est le responsable numéro un et nous sommes co-responsables. Comme des instruments vivants. Et c'est pour cela qu'on ne parlera vraiment du péché originel qu'à partir du mystère du Christ. C'est une des objections qu'on met ordinairement, que dans l'Écriture, on parle peu du péché originel, mais on en parle conçu dans le péché. Le psaume. On se met à genoux. Le psaume du vendredi. Conçu dans le péché. Non. C'est le péché originel. Le péché originel ne sera explicité qu'à partir de saint Paul et dans la lumière du corps mystique, ce qu'il ne faut jamais oublier. Et là, la théologie biblique nous aide beaucoup à comprendre ça. Donc, il y a un péché originel. Et à côté de ce péché originel, il y aura les péchés personnels. Les péchés personnels et la diversité des péchés. Et on reconnaîtra, tous les théologiens reconnaissent, que l'orgueil est le péché numéro un, le plus péché, qui par le fait même fait comprendre ce qu'est le péché. Puisque c'est le péché par excellence. On l'a vu déjà en théologie biblique, en théologie scientifique, on montre le péché. Qui est le péché contre l'Esprit Saint, voyez. Puisque pour être pardonné, il faut reconnaître sa faute. Or, l'orgueil nous empêche de reconnaître notre faute. C'est le problème de l'orgueil. L'orgueilleux a beaucoup de peine de reconnaître sa faute. Et quand l'orgueil devient quelque chose de constant dans notre vie, qu'on ne cherche jamais à s'humilier et à acquérir l'humilité, alors le péché d'orgueil devient massif et a un poids. Et on considère qu'on ne pourra jamais en sortir. Le péché d'orgueil étant un péché spirituel peut être un péché qui, d'une certaine manière, se transmet par mode exemplaire. Quand vous vivez toujours avec un orgueilleux, c'est très difficile de ne pas l'être. Parce que l'orgueilleux se vante tout le temps de ce qu'il fait. Et quand on est en face d'un péché, d'un pécheur qui se vante tout le temps de ce qu'il fait, au bout d'un certain temps, ce qu'il fait par orgueil devient naturel. Même pour lui. Il ne voit plus, il est sincère. Alors je crois que la grande distinction qu'il faut maintenir aujourd'hui en théologie scientifique, c'est de montrer qu'est-ce que c'est que la sincérité, qu'est-ce que c'est que la conscience morale. On a conscience morale de péché par orgueil. On a une sincérité au niveau du repliement sur nous, sur notre propre activité, d'orgueil. La sincérité s'oppose à la vérité comme fruit de l'orgueil. Un fruit quasi immédiat, puisque il est d'ordre spirituel. Alors j'explique un tout petit peu, parce que c'est important pour nous. Vous voyez, la sincérité est d'ordre psychologique, ou d'ordre angélique, la psychologie des anges. La sincérité, qu'est-ce que c'est? C'est être conscient que l'acte qu'on a fait n'est pas si mal. Il est même bien. Il est conforme à notre propre exaltation. Il est conforme à nous-mêmes. On est sincère avec soi-même. On n'est pas sincère avec son ami. On est sincère avec soi-même. Donc, à partir de l'image qu'on s'est faite de soi, à partir de notre moi psychologique, on considère que telle action, même si elle est mauvaise, est bonne pour moi. Je suis sincère. Le péché, au contraire, c'est un acte volontaire d'opposition vis-à-vis de la volonté de Dieu. Donc il a quelque chose d'objectif. Alors je termine, parce qu'il faut terminer. On terminera demain, mais je termine le péché. Vous comprenez que c'est peu de choses, hein, le péché. Je dis peu de choses. N'oubliez pas, dans un langage mystique, Catherine de Ciel dira, le péché, c'est le non-être.